Le Mag de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo, bon réveil à tous, nous sommes le vendredi 15 octobre, il est 7h du matin et pour vous accompagner sur cette matinale, je suis en compagnie de Jody Leclerc. Comment ça va Jody ?
Ça va super et vous Fabrice ?
Bah oui, vous dites ça mais un petit rhume quand même toute cette semaine, ça va s'entendre peut-être un petit peu, vous allez parler du nez.
Et oui.
Bienvenue donc dans ce nouveau mag de l'Immo, qu'est-ce qui nous attend Jody au programme ?
Alors au programme de l'actu, des infos et des découvertes, on va parler de plein de sujets passionnants et qui vous intéressent effectivement, si vous êtes professionnel de l'immobilier, futur acquéreur ou propriétaire. Diagnostic de performance énergétique, proposition de la Chambre des notaires, immobilier de prestige à la montagne, mais également des taux de crédit en baisse qui pourraient très vite remonter. Et votre opinion à vous, Français, sur le marché de l'immobilier.
Quel programme ! À 8h, on réécoutera l'émission avec Julien Savelli, le président délégué de la FNAIM. C'est notre grand invité. Il était interviewé il y a quelques semaines par Sylvain Lévy-Valency et Bérénice Deville. Vous allez voir. Un personnage avec plusieurs vies dans une vie. Nous allons également, comme chaque vendredi, découvrir une nouvelle start-up. Ça sera grâce à Jean-Michel Royot. Objectif Start-up, ça sera tout à l'heure. Le Mag de l'Immo, c'est parti.
Le Mag de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Le Mac de l'Immo, ça démarre tout de suite. Quel est notre premier sujet, jeudi ?
Le premier sujet, c'est le nouveau DPE diagnostic de performance énergétique qui a été lancé en juillet 2021. Mais patatras, près de 80 000 de ces nouveaux DPE seraient faux et classeraient certains logements en F ou en G, c'est-à-dire les fameuses passoires thermiques. Que peuvent faire les futurs vendeurs face à cette situation ? Fabrice, vous faites le point sur le fiasco du nouveau DPE.
Sitôt sorti, sitôt remballé. Le nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique, lancé le 1er juillet 2021, doit déjà être revu. Au final, ce sont 80 000 DPE effectués depuis l'été qui devront être revus et corrigés. À l'origine du problème, c'est que depuis son entrée en vigueur il y a 3 mois, les professionnels du diagnostic sont vent debout contre les nouvelles mesures qui leur sont imposées et qui faussent les résultats. Des dizaines de milliers de logements se retrouvent classés en F et en G, c'est-à-dire dans la catégorie des logements les plus énergivores, les fameuses passoires thermiques, alors qu'ils étaient bien mieux notés avec l'ancien DPE. Ce déclassement concerne surtout les petits logements construits avant 1975, selon la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier, la FIDI. Avec la nouvelle méthode, le coût estimé des consommations en kilowattheure, la première information vue par les consommateurs, est surestimé dans 60% des cas. Or, l'incidence n'est pas neutre. Selon les régions, une maison classée F ou G se vend 6 à 18% moins cher qu'une maison classée en D. Et ce n'est pas tout, puisque se profile en 2025 l'interdiction pure et simple de la location des logements classés G, puis des logements classés F en 2028. De plus, ce nouveau diagnostic de performance énergétique se doit d'être absolument juste car il est désormais opposable. En clair, cela signifie que désormais, un acquéreur pourra se retourner contre le vendeur pour préjudice si l'étiquette attribuée au logement est erronée. Alertée par les professionnels, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon a concédé que ces diagnostics seront systématiquement réédités, sans frais pour les propriétaires, par les diagnostiqueurs. En attendant, le ministère conseille aux vendeurs et aux loueurs de différer la signature de leur contrat. S'ils sont pressés, ils peuvent obtenir un DPE avec le risque d'obtenir un résultat plus mauvais que dans la réalité.
Le Mag de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Bonjour à tous et bien bon réveil. Vous nous rejoignez sur le Mac de l'Immo. Alors on le sait, à la suite de la crise sanitaire, on ne se déplace plus de la même façon, on ne travaille plus de la même façon, on n'habite plus de la même façon. Et les notaires ont pris la mesure du changement. La Chambre des notaires du Grand Paris vient de faire 30 propositions pour un habitat accessible et de qualité, entre autres réformer la fiscalité, optimiser le parc existant, digitaliser le parcours client. Marc Cagnard, le vice-président de la Chambre des notaires de Paris, fait le point sur l'ensemble de ces propositions. C'est au micro de Kenza Braga.
Bonjour Marc Cagnard.
Bonjour madame.
Vous êtes premier vice-président de la Chambre des notaires de Paris. Oui. Avant justement d'expliquer le contenu de cette conférence de presse, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que c'est que la Chambre et ses fonctions premières ?
La Chambre de Paris est une chambre interdépartementale qui regroupe les notaires de Paris, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Donc c'est aujourd'hui quasiment 2000 notaires. Et l'événement qu'on avait ce matin, c'était une présentation des travaux d'un groupe de logement qui regroupe la Chambre de Paris, mais également l'Essonne, la Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine et Yvelines et Val-d'Oise. Donc c'était, on va dire, tous les départements du Grand Paris.
Très bien. Alors vous avez dévoilé 30 propositions pour un habitat accessible et de qualité. Alors d'abord, de quel constat vous êtes parti pour justement réfléchir à ce type de thématique ?
On est parti du constat que chaque jour dans nos études, on rencontre tous les acteurs de la chaîne immobilière. Ça va de la personne qui achète un logement, en passant par le promoteur, le syndic de copropriété, le banquier qui finance, tous les interlocuteurs, les collectivités, les droits de préemption, ainsi de suite.
Oui.
Et comme je disais tout à l'heure, le notaire, c'est un observateur privilégié parce qu'il est en charge de l'application de la norme. C'est-à-dire que lorsqu'on établit un acte de vente par exemple, on est chargé d'appliquer ou de contrôler la légalité de l'acte qu'on reçoit. Donc la norme, on l'applique tous les jours et par conséquent, on est les premiers à voir les réactions des usagers, que ce soit un promoteur, que ce soit une collectivité, que ce soit un particulier. Et donc, on est en mesure de dire ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Donc l'expérience terrain a été primordiale.
On est aux premières loges pour apprécier la qualité ou plutôt l'effet de certaines mesures qui, depuis des années, sont censées résoudre la crise du logement. Et on voit que c'est pas forcément couronné de succès. Donc d'où l'utilité aujourd'hui d'apporter notre pierre à l'édifice pour contribuer à résoudre ce problème qu'on a en Île-de-France de façon assez criante.
Très bien. Alors ces 30 propositions ont été réfléchies autour de 5 axes. Est-ce que vous pouvez nous donner les 5 axes autour desquels ces propositions ont été faites ?
Oui, tout à fait. Je retrouve ma petite liste pour pas écorcher le nom des 5 axes. Le premier, c'est de repenser la propriété pour la rendre plus accessible.
Oui.
Le deuxième, rénover les logements existants. Le troisième, optimiser et transformer le parc existant. Le quatrième, c'est accroître l'offre résidentielle. Et enfin, le cinquième, fluidifier les processus immobiliers grâce à la digitalisation.
Alors, vous avez expliqué que pour justement réfléchir à ces 30 propositions, il fallait en tout cas prendre en considération plusieurs aspects, que ce soit des aspects patrimoniaux, sociaux et également des questions sociétales. Quels sont les nouveaux modes de vie qu'il faut prendre en compte selon vous ?
À l'évidence, tout le monde a la réponse à cette question. Avec la suite de la crise sanitaire, on ne travaille plus de la même façon, on ne se déplace plus de la même façon, on ne vit plus de la même façon. Alors pour vous donner un exemple, on a de plus en plus parmi nos clients des gens qui ont un tiers-lieu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on parle d'une résidence secondaire ou d'une résidence principale, finalement la limite elle devient un petit peu floue, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont partir 4 jours dans ce qui était autrefois une résidence secondaire où ils n'y passaient que le week-end, mais là ça, ils partent le vendredi ou le jeudi et puis après ils reviennent de 3 jours dans leur ex ou leur toujours actuelle résidence principale. Donc les modes de vie ont considérablement changé. La façon de travailler aussi et donc tout cela impacte indirectement bien sûr les lieux de vie et les lieux de travail et donc les frontières entre l'un et l'autre ont bougé et à nous d'identifier ce qu'on peut proposer pour simplifier la vie des franciliens.
Donc clairement la propriété post-Covid n'est plus la même d'avant Covid, clairement.
Pour certains, elle a changé. Pour d'autres, elle s'est encore renforcée. C'est-à-dire que pour certains qui ont la chance d'être bien logés, ils se rendent compte du fait que c'est hyper précieux d'avoir un logement confortable, même en période de Covid. Donc je pense qu'on n'a pas de réponse unique. Il faut poser les questions au cas par cas. Et chacun a une réponse bien particulière, bien individuelle aux changements qui sont les conséquences de cette crise.
Dernière question, Marc Cagnard, si vous le voulez bien, à quelques mois d'une élection présidentielle très attendue. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de l'exécutif, clairement ?
Je pense que l'exécutif écoute un peu les sachants, enfin en tout cas les experts. Alors, pas seulement au niveau du logement, mais sur plein de sujets, je pense qu'il y a intérêt à écouter les professionnels pour le logement, les notaires en font partie,
oui.
Mais sur d'autres sujets aussi, hein, comme le droit de la famille. Donc je pense que l'idée, c'est de montrer que les notaires, pour le logement en tout cas, sont des acteurs incontournables, à Paris, mais plus largement en France, et qu'il faut, sans doute les écouter, parce qu'on est à l'écoute des électeurs, et on est aussi les témoins de l'applicabilité ou de l'acceptabilité des normes. Donc on est capable de dire ça, attention, ça ne marchera jamais, mais ça, en revanche, ça peut avoir un intérêt. Donc allez-y et modifiez ce texte-là.
Même si les 30 n'aboutissent pas, vous espérez au moins qu'il y en ait quelques-unes qui aboutissent,
oui,
quand même.
Oui, tout à fait.
On est
mais
bien
même
d'accord.
Qu'elles aient un impact sur le débat et que finalement, ce ne soit pas une proposition qui soit adaptée en l'état, mais qui soit transformée, qu'elle ait inspiré un changement, ça nous va très bien aussi.
Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions, Marc Cagnard. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de la Chambre des notaires de Paris.
Merci à vous.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a enfin trouvé son appartement. Proche d'une bonne boulangerie.
C'est bien ici.
À 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail.
C'est bien ici.
Et pas loin de la piscine.
C'est bien ici.
C'est sur bienici.com qu'Harold a eu un véritable coup de cœur. Grâce à une recherche immobilière innovante par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
Bonjour, c'est Philippe Boyer. Retrouvez-moi chaque mois dans Complètement à l'Ouest. Économie, art, sciences, gastronomie. Des invités prestigieux analysent le monde qui nous entoure et décryptent notre société. Bref, ils nous parlent de tout, sauf d'immobilier. Rendez-vous mardi à 19h sur Radio Imo. Alors, prêt à mettre le cap à l'Ouest ?
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Bonjour, bienvenue à tous. Première heure du Mac de Limo. Je suis toujours en compagnie de Jeudy Leclerc. Jeudy, on va prendre un petit peu de hauteur si on partait à la montagne.
D'accord Fabrice, on y va. Alors vous le savez, avec l'hiver qui arrive, l'envie de vacances à la montagne se fait sentir. Et si vous deveniez propriétaire de votre appartement ou de votre chalet tout en profitant de services dignes des plus grands hôtels, c'est possible avec Simalp, leader de la transaction et de la location en montagne. Benjamin Berger, directeur général de Simalp, nous donne les détails au micro de Johanna Zilberstein.
Et Radio Imo est ce matin au cœur de Paris, au cœur du 16e arrondissement. Alors pour parler non pas du marché immobilier à Paris, mais en montagne, puisque nous avons ce matin assisté à la conférence de presse annuelle de Simalp. Simalp qui est le leader de la transaction et de la location en montagne. On va voir ça, on va apprendre à les connaître et à faire un état des lieux du marché immobilier en montagne avec le directeur général de Simalp, Benjamin Berger. Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ce matin sur Radio Imo. Alors, Simalp, on connaît un petit peu sur Radio Imo, mais comme ça fait pas de mal de répéter les choses, est-ce que vous pouvez nous représenter ce groupe ?
Oui, je vous remercie de remettre un petit peu de lumière sur l'entreprise. Simalp, c'est notre petit réseau d'agences immobilières. Nous sommes basés dans les Alpes françaises, les Alpes du Nord. Nous avons 14 agences immobilières. Nous opérons sur donc 14 destinations, 14 stations de ski en Savoie, Haute-Savoie et en Isère. Et nous opérons sur trois métiers qui sont la vente immobilière de chalets, d'appartements, de programmes neufs en station, la location saisonnière, la location touristique d'appartements et de chalets, et du property management, donc de la gestion administrative et technique des propriétés tout au long de l'année.
Tout ça, c'est des activités d'agent immobilier classique, j'ai envie de dire. Pourtant, quand on a écouté la présentation tout à l'heure, moi j'ai eu un petit doute. Chez Simalp, on est plutôt agent immobilier ou agent de voyage ?
Ah, je vous remercie encore de poser cette question, puisque nous sommes plus, en effet, agent de voyage et ou hôtelier que agent immobilier. Pourquoi cette particularité ? Elle tient finalement en deux points. Le premier, c'est que quand on pousse la porte d'une agence immobilière Simalp en montagne, on s'attend à être accueilli sur les standards de l'hôtellerie 4 ou 5 étoiles. On vient dans des stations exigeantes, dans des stations à très forte renommée internationale, Val d'Isère, Tignes, l'Alpe d'Huez, Courchevel, il y en a 14 qui sont des porte-étendards, des fleurons de l'industrie touristique et de l'immobilier en France. Donc cela suppose d'avoir des codes serviciels qui sont résolument haut de gamme. Donc on est des hôteliers et également des agents de voyage. Pourquoi ? Parce que le travail d'un agent immobilier, c'est celui d'un agent de voyage et d'un hôtelier dans les agences Simalp, en tout cas tel que nous l'avons conçu. C'est-à-dire qu'on va construire une chaîne de valeur autour d'un séjour en montagne. On va évidemment vendre un appartement ou un chalet, mais ensuite on va le louer à des vacanciers qui viennent de loin ou de moins loin. Et on va packager ce produit immobilier autour d'une production touristique assez complète. Il y aura du forfait de ski, de la location de ski, du catering, c'est-à-dire de la gastronomie, de l'œnologie. On va essayer d'offrir ce que l'art de vivre à la française a de mieux à offrir à une clientèle qui vient nous voir. On a la chance qu'elle vienne nous voir et qu'elle vienne occuper nos propriétés. Donc la moindre des choses, c'est de les accueillir dans les meilleures conditions.
Justement, cette clientèle, quand elle passe la porte d'une agence Simalp pour la première fois, est-ce qu'elle vient chercher des vacances ou est-ce qu'elle vient chercher un investissement immobilier ?
C'est deux clientèles qui ont finalement une capillarité assez forte l'une envers l'autre. La première clientèle, c'est celle, effectivement, si on raisonne sur une frise chronologique, c'est celle qui vient acheter. Elle pousse la porte d'une agence pour venir investir. Donc quand on pousse la porte d'une agence Simalp, c'est que mécaniquement, on est sur la station, donc on est déjà en vacances, ou en tout cas on réside quelque part dans la station. Donc il y a une approche quand même touristique qui est à la genèse de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire si on prend le long parcours du cycle client ? On vient dans une agence, on pousse la porte et on va s'intéresser à un investissement. Quand on a acheté, on va mettre en location. Et c'est là que c'est intéressant avec le business model de notre petit groupe dont on est très fier est un cercle vertueux qui profite à tout le monde et à l'ensemble de l'écosystème de l'économie de montagne. Pourquoi ? Parce que les locataires qui viennent chez nous viennent dans un appartement, dans un chalet géré par Simalp, une année, puis une deuxième saison, puis une troisième saison, etc. Et au bout de 5-6 saisons, on constate quasi systématiquement qu'ils vont commencer à s'intéresser à un investissement immobilier. Ils vont se dire, tiens, je suis locataire, et si je devenais propriétaire ? Et là, on arrive à passer le bâton d'un service à l'autre, de notre service location vers le service transaction. Et une fois que le locataire est devenu investisseur chez nous, il devient propriétaire et lui-même génère 20 semaines de location, donc 20 locataires différents qui eux-mêmes vont un jour se porter acquéreurs.
Merci beaucoup Benjamin Berger pour vos explications, pour ce tour d'horizon de Simalp et du marché de montagne. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Simalp. Merci beaucoup et à bientôt.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Le Mac de l'Immo, ça continue de 7h à 8h. On est en direct avec vous en ce 15 octobre. Jeudi, on va parler des taux de crédit immobiliers. Alors ça baisse, mais attention.
De nouveaux records sont enregistrés en ce début du mois d'octobre, mais la tendance pourrait s'inverser. Vincent Favéro nous explique pourquoi.
Les Français s'intéressent de plus en plus à l'environnement, notamment en ce qui concerne l'immobilier. C'est la une de notre revue de presse immobilière cette semaine, avec cet article paru dans Les Échos. La conscience environnement des Français progresse. Le journal se fait l'écho d'une étude Ipsos à Britel. 75% des personnes interrogées disent avoir à cœur de vivre dans un habitat respectueux de l'environnement. Une étude qui, dans le détail, montre que les Français sont positionnés en faveur de la protection de la nature, mais parfois avec des incompréhensions encore. 17% des sondés estiment que leur logement doit être proche des infrastructures, 17% seulement proche des transports, commerces, écoles, travail. Or, la multiplication des trajets en voiture nuit évidemment à la préservation de l'environnement. Les Français ne relient pas le logement durable à son environnement et il y a sans doute là quelque chose à travailler dans l'opinion, commente Brice Teinturier, le directeur de l'Ipsos, dans Les Échos. Autre regard intéressant, les Français sont plus sensibles aux équipements qui se voit comme le bac de tri de déchets qu'aux équipements où sont vraiment les enjeux, comme la présence d'une éolienne, de panneaux solaires ou alors d'installations de pompes à chaleur. Là encore, il reste de la pédagogie, nous dit le journal. L'enquête complète et très intéressante est à lire cette semaine dans Les Échos. La presse parle aussi largement du prolongement du dispositif du prêt à taux zéro annoncé par la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, la semaine dernière. À venir également le Pinel Plus qui sera présenté la semaine prochaine, comme le rapportent nos confrères de Ouest France. Quelques annonces qui vont aider les Français sur les questions d'immobilier dans les années à venir et qui ne desservent pas non plus le gouvernement à quelques mois d'élections cruciales que l'on suivra bien sûr pour les questions de logement sur Radio Immo avec intérêt. Enfin, cap sur l'Espagne maintenant dans le Figaro. Le pays veut à son tour encadrer les loyers. Une bonne raison à ça, comme le rapporte le quotidien, les prix de l'immobilier résidentiel ont fortement grimpé durant la crise sanitaire en Espagne. en raison d'un déséquilibre entre la demande et l'offre de logements. Entre 2015 et 2020, ce sont plus de 28% d'augmentation d'après Eurostat sur les prix de l'immobilier. Idem pour les loyers qui ont flambé de plus de 53% entre 2014 et 2020 dans le pays, selon le portail immobilier Idealista que rapportent nos confrères du Figaro. Le pays qui se mobilise donc pour endiguer le problème du logement dans le pays. Autre annonce, une loi sur le logement qui devrait entériner la construction de près de 20 000 logements sociaux avec la réhabilitation de quartiers entiers selon l'exécutif pour un montant d'1 milliard d'euros. Vous retrouvez tous les articles de cette revue de presse sur le podcast sur le site Radio Immo.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Put your love in Anytime I bleed, you let me go, yeah. Anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dust, keep open for. Then the dog is yours, keep also home. 'Cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, but your face is like. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out.
Et on vient d'écouter Maneskin Begin. Ça réveille ça jeudi, hein,
oui,
dès le matin.
Oui, ça réveille.
Vous saviez que c'était le vainqueur de l'Eurovision 2021?
Ah non, je ne savais pas.
Eh ben voilà, c'est les Italiens en furie du rock sur Radio Immo. À tout de suite.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Vous êtes toujours sur Radio Immo dans le Mac de l'Immo pour cette première heure. Toutes les infos sur le marché de l'immobilier. Alors on le sait, c'est la sortie de la crise sanitaire enfin et l'optimisme fait son grand retour. Jeudi, les Français sont plutôt confiants dans l'avenir de la situation économique du marché immobilier.
Et oui, 53% d'entre eux
sont positifs. Vous avez réalisé une interview de Ludovic Usio, le cofondateur d'Artemis Courtage. Artemis Courtage qui, avec Opinionway, a réalisé justement un baromètre sur les Français et l'immobilier. Quel est leur état d'esprit pour ce second semestre 2021? On écoute tout de suite Ludovic Usieux.
Bonjour Ludovic Usieux, vous êtes le cofondateur du groupe Artemis Courtage. Pouvez-vous nous rappeler le cœur de métier de votre entreprise?
Bonjour, Artemis Courtage est un groupe que j'ai cofondé en 2009, qui est un groupe spécialisé dans le courtage en crédit immobilier et dans l'assurance emprunteur, destiné principalement aux acquéreurs individuels. C'est-à-dire qu'on fait recours à mes services et aux services de ma société quand on a pour projet d'acheter son appartement ou sa maison en tant que résidence principale ou résidence secondaire ou investissement locatif. On a après d'autres métiers, d'autres filiales qui s'occupent du professionnel, mais le cœur du métier d'Artemis Courtage, c'est de négocier pour ses clients un emprunt immobilier et une assurance emprunteur au plus juste en gagnant du temps et de l'argent.
Vous avez présenté aujourd'hui en partenariat avec Opinionway le baromètre suivant, les Français et l'immobilier, quel état d'esprit au second semestre 2021? Alors tout d'abord, 53% des Français ont un sentiment optimiste, on va dire, sur la situation économique du marché immobilier. Selon vous, qu'est-ce qui fait cette progression de 9% par rapport à novembre 2020?
Alors nous on a deux analyses par rapport à cette forte progression et à cette confiance accélérée et renouvelée dans le marché immobilier. Les deux axes d'analyse sont les suivants. Le premier, c'est qu'on sort en novembre, on était dans une période de reconfinement avec forcément, comme toute période de reconfinement, les idées un peu plus noires et un peu moins d'optimisme par rapport à la situation économique et par rapport à l'immobilier. Donc c'est à mon avis la première chose et la première explication. Et la seconde explication, c'est que dans toute sortie de crise, que ce soit une crise économique ou dans ce cas présent une crise sanitaire et la pandémie de Covid-19, quand on est en sortie de crise, on s'aperçoit que les Français, que la première priorité des Français, c'est d'avoir un toit sur la tête et que, en règle générale, on redevient très, très axé sur l'achat immobilier et à plus forte raison sur le financement et l'acquisition de sa résidence principale. Et c'est d'ailleurs un autre chiffre de cette étude Artemis Courtage Opinionway, c'est que la priorité des priorités pour les Français aujourd'hui, dans trois quarts des cas, 75% des Français sondés estiment que l'achat de sa résidence principale est une priorité absolue.
Justement, continuons sur la perception des Français et notamment des Franciliens. 59% des habitants de l'agglomération parisienne sont confiants pour l'avenir de la situation économique du marché de l'immobilier. Cette augmentation de 6%, selon vous, pourquoi il y a une différence?
En général, on a le type d'explication suivante. Le salaire moyen ou médian Paris-Île-de-France et dans les grandes métropoles en général est supérieur. Donc on a en général moins d'appréhension sur sa situation personnelle ou sur l'appréhension d'un marché immobilier ou d'une reprise parce qu'on gagne, les revenus sont un peu plus confortables, on gagne un peu plus d'argent. C'est la première explication. Et puis la seconde, c'est que il y a plus de professions de services, donc moins exposés aux risques industriels, aux commandes, au stock, à l'approvisionnement que ce qu'on peut constater en région. Et c'est les deux explications qu'on avance en règle générale pour expliquer la différence d'optimisme vis-à-vis du marché immobilier entre Paris, l'Île-de-France et les régions.
Et justement, par rapport aux pensées donc des Franciliens qui est majoritairement plus optimiste par rapport aux habitants dans les régions, est-ce que vous pensez que c'est lié, donc vous l'avez dit, à une activité différente? Cette pensée-là, elle est liée à une envie de partir aussi de la région Île-de-France?
C'est une des autres possibilités on réalise cette étude depuis maintenant une grosse année et demie. C'est la cinquième vague, donc c'est la cinquième fois qu'on interroge les Français par rapport à leurs sentiments et leur rapport à l'immobilier et au crédit. Et on s'aperçoit que ce qui était avant des intentions, une intention soit de partir, soit d'agrandir son logement, soit d'accéder à des espaces extérieurs type jardin, terrasse, balcon, n'étaient finalement que des intentions. Et puis quand on sortait des confinements, on se disait que sa vie dans la ville ou dans les centres urbains convenait. En revanche, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un passage à l'acte et que ces intentionnalités, elles se vérifient dans les comportements des achats des Français.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Ludovic Usieux.
Merci beaucoup.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Alors, que risquent les propriétaires s'ils mettent en danger leurs locataires? Voilà une question d'importance hein, dans ce Mac de l'Immo. Jeudi, vous êtes penché sur la question. On apprend que le 6 octobre dernier, une propriétaire a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour mise en danger délibérée.
Effectivement, alors on se pose la question, est-elle en droit de louer son logement?
Et oui, lorsqu'elle a acheté l'appartement en 2011, la mairie a pris un arrêté de péril pour l'immeuble. On écoute tout de suite votre chronique sur ce sujet.
Le plafond s'effondre dans la cuisine et dans un bout de salon. Le témoignage de la locataire a été suffisant pour condamner la propriétaire. Elle doit verser 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral à sa locataire et elle risque aussi 6 mois de prison. L'appartement est qualifié par un arrêté municipal d'immeuble en péril. En clair, le maire peut prendre une mise en sécurité procédure urgente lorsque la sécurité des habitants n'est pas assurée. Mais cette procédure s'applique uniquement à la solidité du logement et non pas à l'état ou aux conditions d'occupation qui sont traitées par la procédure d'insalubrité. Dans ce cas-là, les occupants doivent être évacués et relogés aux frais du propriétaire, comme le prévoit la loi. Même si la copropriété a entrepris des travaux, pour ce cas précis, l'accident du plafond a quand même eu lieu.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Galtier Evaluation, ce sont 60 professionnels, experts en évaluation immobilière, techniciens du bâtiment et ingénieurs en environnement qui travaillent sur l'ensemble du territoire pour vous proposer une offre globale d'expertise indispensable à une vision précise de la valeur de votre patrimoine immobilier. Recourir à l'expertise de Galtier Evaluation, c'est vous assurer de faire appel à une équipe reconnue pour son professionnalisme.
Depuis plus de 40 ans, GERCOP est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité dans la relation client, GERCOP offre une gamme de produits complète pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transactions ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, GERCOP vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos compétences sur notre site gercop.com. GERCOP.com.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Ce week-end avait lieu le Salon de l'immobilier et de l'investissement. Radio Immo y était, on a découvert qu'on pouvait investir en France, mais également beaucoup plus loin. Pourquoi pas aux États-Unis, à Détroit ou encore à Dubaï? On va écouter tout de suite Franck Nogues, l'immobilier américain, qui nous parle du renouveau de la ville de Détroit. Et c'était avec vous, Fabrice.
Bienvenue à tous, on est toujours en direct du Carrousel du Louvre à Paris pour ce Salon de l'investissement de l'immobilier du 8 au 10 octobre. On est en compagnie de Franck Nogues. Bonjour Franck.
Bonjour.
Vous êtes président de l'immobilier américain et le site éponyme l'immobilieraméricain.com puisque vous êtes spécialisé sur ces investissements, mais vous êtes à la base conseiller en gestion de patrimoine. Où est-ce qu'on investit? Où est-ce que vont vos clients?
Donc on a évolué radicalement vers le nord cette fois-ci, puisque ouais. la ville qui aujourd'hui propose le meilleur couple rendement-risque, c'est Détroit, hein, qui était la
Detroit,
qui a été la ville complètement massacrée après la crise des subprimes, après la délocalisation de la production automobile. Et en 2013, Il y a aussi eu un maire qui a détourné beaucoup de fonds de la ville de Détroit. Contrairement en France, le maire est parti pour 19 ans en prison, enfin l'ex-maire. Et depuis, on a un maire, Mike Duggan, qui fait un travail remarquable, conjugué avec une association de 12 milliardaires qui ont créé le Made in Detroit. Donc ils ont injecté beaucoup d'argent, ils se sont reposés sur les constructeurs automobiles. L'actualité automobile aujourd'hui est ultra riche à Détroit.
On a ça repart après des années de sinistrose, effectivement. La ville repart à l'instar effectivement de cette industrie automobile. Il y a des quartiers qui ont été entièrement détruits d'ailleurs pour qu'on a abandonné, enfin qu'on a détruit, c'est des friches. Et du coup, ça a revalorisé l'autre partie du patrimoine qui était plutôt sympathique.
Exactement. Il y a eu plus de 10 000 maisons détruites à Détroit. Le maire Mike Duggan a su raser les quartiers qui ne méritaient pas une rénovation. Et donc, aujourd'hui, on a une ville de Détroit qui surfe sur la nouvelle technologie. Le Grand River, qui est le quartier proche de la rivière Détroit, a été consacré comme le meilleur quartier américain pour la gentrification. On a des milliers de personnes qui arrivent sur Détroit. Les constructeurs automobiles, vous allez entendre parler de Rivian, qui est la contraction de River et Indian. Ça va être le concurrent de Tesla. Ils vont être introduits en bourse dans les jours qui viennent pour 80 milliards de dollars. Donc en France, il y a toujours un petit peu de décalage avec
la formation. On ajoute plusieurs zéros,
voilà.
Effectivement.
Et donc Amazon est un des principaux actionnaires. Amazon prévoit d'acheter 100 000 véhicules dans les 5 prochaines années. Amazon toujours vient... Enfin, je reste le constructeur, après je reviendrai à Amazon. On a Ford qui vient de débaucher le patron de Apple Car. General Motors est considéré comme un des 5 plus gros constructeurs de demain en matière de véhicules autonomes électriques. Et d'ailleurs, la première route dédiée uniquement aux véhicules autonomes électriques a été inaugurée par le maire de Détroit et la sénatrice dont son nom m'échappe, mais assez connue, qui était pressentie pour être vice-présidente de M. Biden, entre cette route pour les véhicules autonomes électriques entre Detroit et Ann Arbor a été inaugurée il y a un an et demi.
Donc on l'a compris, environnement économique assez florissant, en tout cas complètement en transformation. Moi, ce que je voulais vous demander, Franck Noguès, c'est par rapport à ceux qui nous écoutent justement, puisqu'on est au salon de l'immobilier, comment on fait, parce que ça, à vous écouter, identifier c'est bien, mais il y a des règles, on n'est pas sur le même droit, on n'est pas sur la même monnaie, donc il y a des effets changes, etc. Est-ce que vous vous occupez de tous ces aspects? Comment ça va se passer pratiquement pour ceux qui veulent vous voir, viennent vous voir et disent, bah tiens, ça me paraît une bonne idée, j'ai 100 000, 200 000 euros à investir, pourquoi pas diversifier?
L'intérêt, c'est d'être gestionnaire de patrimoine à l'origine. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner notre client de A à Z. On travaille avec le plus gros cabinet d'avocats en France qui s'appelle Cabinet Fidal. Et dans le cadre du Cabinet Fidal, je suis allé avec un avocat notamment connu aux États-Unis pour tout monter. Donc on accompagne le client de A à Z. Notre structure monte toutes les opérations de A à Z. On va de l'achat des biens, la rénovation, la gestion des biens, la maintenance, c'est très important, et la revente. Donc ça, déjà, ce sont des francophones qui vous accompagnent pendant toute la durée de votre investissement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le cadre réglementaire, il est simple. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acheter avec une société qui s'appelle une LLC, Limited Liability Company. On est à mi-chemin entre la SCI et la SARL. En fait, on a l'avantage des uns sans avoir l'inconvénient de l'autre. L'avantage de la SARL, c'est qu'on est à responsabilité limitée, Limited Liability Company. L'inconvénient, ça serait justement de ne pas pouvoir sortir les capitaux avant d'avoir clôturé un bilan. Et donc, c'est l'avantage de la SCI transparente, c'est de pouvoir récupérer ses capitaux au fur et à mesure de la perception de ses loyers.
D'accord.
Sans avoir à attendre la clôture. Ensuite, une fois que vous êtes en LLC, vous pouvez amortir le bien. C'est comme du LMNP. C'est-à-dire que vous pouvez diminuer de votre base taxable l'amortissement. Donc, ce qui fait que vous allez payer moins d'impôts.
Même s'il est à l'étranger.
Bien sûr.
D'accord.
Même s'il est à l'étranger. Et ensuite, vous rapatriez vos revenus en France. Vous faites une déclaration 2047. Donc, vous faites la première pour vous assister, vous aider, vous montrer comment ça fonctionne. et ensuite vous reportez l'excédent foncier sur la 2044 et la 2042. Mais depuis 1994, vous avez la convention franco-américaine qui fait que vous constituez un crédit d'impôt qui compense ce que vous auriez payé aux États-Unis. Puisque avant de payer des impôts aux États-Unis, compte tenu de cet abattement, il faut commencer à avoir 3-4 maisons.
D'accord. Du coup, on a compris, hein, c'est un investissement clé en main. On est accompagné à chaque étape. Pour ceux qui souhaitent justement se rapprocher de vous, on va se reciter Franck Doguest, donc l'immobilieraméricain.com en un mot, c'est bien ça. Vous êtes basé à Marseille,
à Paris, rue de Provence,
et à Paris. Donc voilà, toutes les nos auditeurs ont toutes les clés en main pour étudier cette piste de diversification qui est très intéressante et prometteuse au niveau patrimonial. Merci Franck Doguest. Je rappelle que vous êtes président de l'immobilier américain et à très bientôt sur notre antenne.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
When I got you next to me.
D'écouter Dua Lipa, le titre c'est Physical.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Bienvenue dans le Mac de l'Immo pour ceux qui nous rejoignent tous les vendredis de 7h à 9h30. Tout de suite, c'est l'heure de découvrir la start-up Immo de la semaine en compagnie de Jean-Michel Royot qui nous présente Belleville.
Le Mac de l'Immo, la start-up Immo. En partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du Mac de l'Immo et la petite rubrique que j'ai l'honneur d'animer Startup Immo, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Adrien Ramirez et sa belle startup qui s'appelle Belleville. Bonjour Adrien.
Bonjour Jean-Michel.
Comment allez-vous?
Bah écoutez, tout va bien.
Alors un bel accent du Sud, j'ai cru comprendre que c'était un accent de l'Aveyron.
Tout à fait, je suis originaire de Rodez.
Non, c'est une très très belle région. On salue tous les Aveyronnais, évidemment. Adrien, Belleville, c'est une start-up. Une fois qu'on a dit ça, moi j'aimerais bien en savoir plus. Hein, c'est pour cela qu'on se parle aujourd'hui. Quelle est votre promesse ?
Alors Belleville, c'est une jeune foncière immobilière responsable. On a un agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Et la promesse, écoutez, c'est la réactivation des villes moyennes, c'est la réactivation des banlieues, c'est la réactivation des zones rurales par l'immobilier.
Parfait. Alors tout ça, c'est très alléchant. On veut en savoir plus. Donc on va vous donner une minute, Adrien, pour nous expliquer comment ça marche, comment on vous montez vos projets, avec qui vous travaillez sur le terrain pour redynamiser ces villes moyennes qui, parfois, en ont vraiment besoin. Allez, c'est à vous.
Alors déjà, Belleville, c'est un beau projet collectif. On est 5 associés. On vient tous d'horizons différents. Moi, par exemple, je viens du logement social. J'ai fait 10 ans de logement social. Il y a Alexandre qui a fait des grands projets immobiliers. Il y a François qui est architecte. Il y a Jérémy qui a fait des entreprises dans l'économie sociale et solidaire, un bureau d'études de conseil, une conciergerie de quartier. Et il y a Sébastien de Hulster qui est président de la foncière de Vatou, une foncière familiale, et qui détient des centres commerciaux, des commerces de pied d'immeuble dans des villes moyennes. Donc voilà, on s'est réunis tous les 5 parce qu'on voulait faire un peu l'immobilier différemment. On voulait faire un immobilier porteur de sens. On voyait l'immobilier comme un outil et pas une finalité. Et on s'est dit qu'on avait toutes les compétences pour travailler sur tout ça.
Alors cet immobilier, finalement, c'est quoi ? C'est quel type d'immobilier ? Qu'est-ce que vous en faites ?
Alors, on est un acteur généraliste. On travaille sur le logement, sur le commerce, sur même un espace de logistique. On a racheté à Trappes. Et on fait aussi un mix de tout ça. Et du coup, on travaille sur ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-lieux.
D'accord. C'est quoi un tiers-lieu ?
Alors un tiers-lieu, écoutez, c'est souvent une ancienne friche. Par exemple, on travaille sur la halle de la cartoucherie à Toulouse, qui est un projet assez emblématique. Donc c'est une ancienne friche qu'on va nous réhabiliter, qu'on va reprogrammer et dans lequel on va mettre tout un tas de fonctions diverses et variées. Il y aura souvent la culture, parce que c'est des lieux qu'on veut inonder de culture, mais il y aura aussi du coworking, il y aura aussi du sport, il y aura de la gastronomie, il y aura éventuellement du logement. Et voilà, c'est aujourd'hui une façon de voir l'immobilier qui est un peu différente.
Parfait, qui s'adresse aux jeunes, aux moins jeunes, à la famille.
C'est des lieux qui sont très ouverts, inclusifs, qui s'adressent à tout le monde. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui les caractérise finalement. Ce n'est pas des lieux qui vont être segmentants.
Et la dimension ESUS, c'est quoi finalement l'impact que ça a sur ces projets-là ? Comment ça se traduit ? J'ai cru comprendre que vous aidiez des jeunes commerçants, des jeunes artisans, mais quoi d'autre ?
Alors déjà l'agrément ESUS, c'est un agrément préfectoral, c'est-à-dire que c'est la préfecture de Haute-Garonne qui nous l'a donné. Ça reprend des engagements qui sont dans nos statuts de Belleville, c'est la recherche d'une utilité sociale, une lucrativité qui est limitée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce projet-là pour s'enrichir, et c'est une gouvernance qui est partagée. Et ça, c'est vraiment notre ADN. Et après, l'idée de cet agrément, c'est de travailler sur des projets qui sont porteurs de sens et effectivement d'accompagner aussi des jeunes exploitants qui veulent se lancer, par exemple, sur une activité commerciale. L'idée, c'est pas forcément c'est plutôt de les accompagner, c'est de leur faire des conditions de rentrer dans nos lieux qui sont favorables. Et à terme, on va nouer des partenariats sur du long terme.
Parfait.
Et là, on sera garanti que les loyers rentreront aussi.
C'est très intéressant, bravo. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir qui vous fait confiance aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms d'opérateurs immobiliers, de collectivités locales qui ont décidé de retenir Belleville par rapport à vos valeurs, aux projets que vous portez?
Alors les premiers qui nous ont fait confiance, c'est 700 investisseurs particuliers, puisqu'on a fait une levée de fonds citoyenne sur la plateforme Lita, et on a levé 2 millions d'euros il y a maintenant un peu plus d'un an. Après, il y a effectivement des collectivités, des aménageurs qui nous font confiance. Cette halle de la cartoucherie dont je vous parlais, c'est Opidea qui nous la vend, qui est l'aménageur toulousain.
Très belle SEM de la ville de Toulouse, qui est pilotée par l'excellent Raphaël Catonnet.
Exactement, on parle bien de la même chose. Et donc là, ils arrivent à vendre à notre structure, et puis surtout à un collectif d'associés, parce qu'on n'est pas tout seul sur ce projet. Ils arrivent à nous vendre cette halle qui fait plus de 10 000 m² pour faire ce projet de
tiers-lieu. Et vous intervenez sur toute la France ?
Aujourd'hui, on intervient beaucoup en Occitanie et en Île-de-France, mais on est en train un peu de sortir de ces périmètres. On va notamment au Havre et peut-être bientôt à Marseille.
Bon, super, bravo. Et si on veut vous contacter, comment on fait ?
Alors on a un site internet que tout le monde pourra trouver en tapant sur internet Belleville avec un S à la fin. On a un Instagram, on a un LinkedIn, donc on est assez facile
voilà, donc,
à contacter.
LinkedIn, Adrien Ramirez, Belleville, on doit pouvoir vous trouver.
Tout à fait.
Écoutez, j'étais absolument ravi de faire votre connaissance et de découvrir cette belle start-up ESUS qui est Belleville. On vous souhaite plein de succès dans vos différents projets et on espère vous revoir très bientôt sur Radio Immo. Ben, merci Adrien, à très bientôt.
Merci beaucoup pour votre invitation et à très bientôt.
Merci.
Le Mac de l'Immo, la start-up Immo, en partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.
Le Mac de l'Immo, c'est tous les vendredis de 7h à 9h. Dans quelques instants, on va écouter l'interview de Julien Savelli, président de la FNAIM, interviewé il y a quelques semaines par Sylvain Lévy-Valency et Bérénice Deville. Mais tout d'abord, un peu de pop vitaminé pour se réveiller. Dans un instant, Thérapie Taxi Candy Crush. Jeudi, excellente journée à vous. Excellente journée à vous, tous les auditeurs à l'écoute de Radio Immo.
Je suis si sage, sage d'habitude, mon chéri. Comme une image, mage de lassitude dans la vie. Mais tu m'as braqué, je crois, ce soir-là. Et j'ai trouvé la flemme dans tes pas. Et je suis prisonnière de ta peau. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions d'envies de te plaire. Quand je m'allume, on devient insouciant. Sur le bitume, on sourit un instant. Ta gueule d'ange, ange coiffée de lueur. Tout d'un coup ma candeur de femme sans émoi. Je file les balles quand tu pousses à la fosse. Mais tout s'emballe si je parle à une autre. Et je suis au-dessus des putes que tu croises. Je suis de celles qu'il faut qu'on apprivoise. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions.
Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance sur moi. Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance sur moi. Ce ciel est fait pour la romance,
je crois.
Toute nue, c'est elle qui s'avance
sur moi.
Ce ciel est fait pour la romance,
je crois.
Toute nue, c'est elle qui s'avance.
Je sens les bagues qui me montent à la tête. Et je dis vague, vague dans la fumée, dans la fête. Je me suis offerte au luxe de tes mains. Je me vois trembler sans amour demain. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions d'envies de te plaire. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur.